Bonsoir. Alors, je suis dans un atelier où j'apprends qu'on me fait deux commandes de tableaux. Je suis peintre et c'est sur deux supports énormes, assez gros, ronds, ovales, comme des gouttes à l'envers, ovales et en pointe. Et je m'aperçois que c'est des supports très peu pratiques et très lourds. Et là, dans l'atelier, c'est une espèce d'atelier d'ébéniste. Le maître de l'atelier me propose de faire des supports, comme des petits chevalets. Et donc, en deux temps, trois mouvements, il me fait deux supports qui tiennent, qui font tenir le tableau très bien. Et donc je repars avec ces tableaux, ces supports, et on me donne des cadres, des sous-verts. Et là, je sors de la pièce et je me retrouve dans une usine, encore comme un atelier d'usine métallurgique. Et là, j'ai plus les tableaux ni les supports, j'ai juste ces sous-verts de différentes tailles, et je vais à mon poste de travail et où travaille en face de moi un collègue qui est sous les traits de comment il s'appelle, Dujardin, je sais plus son prénom,
l'acteur,
et donc lui
Jean Dujardin,
voilà, Jean Dujardin. Et donc lui travaille, et moi, alors que je suis supposé travailler comme lui, je passe mon temps, je m'aperçois que les sous-verts, ils sont, vous savez, il y a des petits clips qui l'entourent, et ces clips sont défaits, rangés, emballés dans des petites boîtes, et je passe mon temps à essayer de les remettre ou à ranger les petits clips entre eux. Ils sont de différentes tailles, alors ça me prend un peu de temps, donc je ne travaille pas pendant ce temps-là. À un moment, je m'aperçois qu'il y a un sous-verre, je fais tomber les sous-verres, ils sont tous intacts, sauf un qui est un peu fêlé, mais je me dis que je peux le rattraper, il est réparable, et je renverse une boîte avec plein de petits trucs, des boulons, des... Et donc, je suis un peu le boulet de mon collègue Jean Dujardin, parce que, bon, du coup, il s'arrête de travailler, on ramasse les choses. Et là, je repars, et je change de pièce. Et là, dans la pièce, il y a une classe, comme une classe d'enfants, et le professeur, c'est ma maman. Et je passe juste dans cette pièce, elle me dit bonjour... Et je garde mes distances, enfin je lui dis bonjour, mais pas comme d'habitude, pas de grosses embrassades, parce que j'estime dans ma tête que là elle est dans le statut d'une professeure et qu'il faut garder nos distances. Et donc je sors de cette pièce et je me retrouve en dernière scène dans une voiture avec ma meilleure amie. Et je lui explique ma journée en lui disant que en fait j'ai pas travaillé du tout de la journée, que j'ai fait autre chose, que j'ai pas été très productif, et que on me confie une mission. Je lui parle d'une mission artistique, mais je ne sais pas encore si je vais l'accomplir, si je vais la faire. Et le reste termine là.
Je n'ai pas très bien compris, le support, ce serait comme deux gouttes d'eau.
C'est des grosses gouttes d'eau, enfin c'est en bois, mais la forme c'est comme des gouttes d'eau, vous savez, rond, arrondies, qui finissent en pointe.
Et de quelle taille à peu près?
Oh, énorme, plus grande que moi, à peu près 1,90 m.
Et donc comment sont disposées ces deux gouttes?
Ils sont... comme des gouttes qui tombent, en fait. L'arrondi est en bas.
Mais elles sont donc entières, ces gouttes, ou elles sont en demi seulement?
Ils sont entières.
Et comment tiennent-elles? Parce qu'on a du mal à se représenter.
Bah oui, elles sont vraiment encombrantes. Moi, je les porte difficilement parce qu'elles sont lourdes. 90 en plat. Bon, enfin, c'est juste la forme en bois. Et donc, je suis embêté.
C'est plat.
Ouais, c'est plat comme une planche, une goutte en planche. Je m'aperçois d'ailleurs que le dessous, tellement que c'est lourd, des fois je la pose et je m'aperçois que le dessous est un peu abîmé. C'est de là que le maître me propose de faire des supports pour supporter cette forme qui tient pas debout en fait.
L'ébéniste, c'est ça?
Voilà, l'ébéniste, oui.
Donc, ce sont des représentations de la poitrine de votre mère ou de quelque chose de votre père, à votre avis?
Ça serait plutôt peut-être les larmes de ma mère.
Ok, donc pas les testicules du père.
Ah non. Enfin, à première vue, là, comme ça, c'est cette pensée qui me vient.
Oui, parce que c'est quand même votre mère qui est mise en présence dans le rêve. Et on a l'impression que ce support vous empêche d'aller droit au but. Puisque là, tout le rêve va donc être une sorte de préparation, mais il ne se passe rien. Mm-hmm. On s'attendrait effectivement à ce que vous exécutiez la commande, que vous passiez à l'action. Mais là, vous n'arrivez pas à aller droit au but. Vous êtes d'abord dans cette... vous faites référence au maître ébéniste pour faire un support pour tenir ces deux formes. Et ensuite, vous vous perdez dans les détails. Et vous n'arrivez pas à incarner le rôle de Jean du Jardin. Et vous avez même l'impression de le ralentir. Mm-hmm. Donc là, on a l'impression qu'il y a une partie de vous qui est empêtrée encore dans la poitrine maternelle, soit dans ses gouttes de lait, soit dans ses larmes. Mais on pense quand même à une énorme poitrine de bois. Donc une sorte de paradoxe. Et on a l'impression que votre mère était très, très dominante.
Ah oui, 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 très présente, oui.
Et même très, très dominante par rapport au père.
Ben non, mais c'est que mon père était jamais là, donc c'est vrai qu'elle n'avait pas de mal. Hein. C'est elle qui supportait un peu tout le foyer familial.
Et comment se fait-il que vous vous placiez en situation de subordination dans le rêve?
Comment ça?
Vis-à-vis d'elle.
En subordination. Vous avez un synonyme?
Un petit peu soumis encore à son autorité, puisque vous la représentez en tant que prof. Et que cela empêche vos effusions.
Mm-hmm. Ben, je ne sais pas pourquoi je la mets. Parce que, bon, c'est vrai que là, on ne vit plus, je ne vis plus dans le foyer familial.
Non, mais il n'y a pas besoin d'être près de sa mère pour être envahi par elle.
C'est vrai, oui. Ben, je pense que mon enfance, ben, moi, a été très... ma mère était dépressive, donc effectivement, j'ai toujours essayé de faire attention, d'être un peu à son service, quoi, à être attentionné, à être...
Ces larmes sont quand même très artificielles.
Oui.
On a l'impression d'une immense mise en scène. C'est du bois, c'est sec.
Oui, ben, je pense que c'était aussi, peut-être que sa maladie, c'était aussi pour être un... c'était une espèce d'appel à l'aide pour vis-à-vis de mon père, pour qu'on s'occupe d'elle, peut-être. Donc, effectivement, elle avait...
Ou pour l'éloigner.
Oui.
Parce que ce sont ces larmes que vous devriez transformer, que vous devriez maintenant mettre en scène, et vous avez quand même beaucoup d'éléments de dispersion dans le rêve qui vous empêchent de vous concentrer sur l'ouvrage.
Oui.
Alors, que représente-t-il pour vous, Jean Dujardin?
Le charisme, l'homme pas parfait, je ne connais pas personnellement, mais je trouve qu'il dégage quelque chose d'assez jovial, d'assez beau et d'intelligent. Enfin, il a un peu... c'est l'homme idéal, en fait, pour moi. Il est drôle, il est beau, il est intelligent. Il a du charisme, il a l'air d'avoir des qualités humaines assez prononcées, je trouve.
Et vous aimeriez lui ressembler ou vivre avec lui?
À ne plus lui ressembler, parce que vivre avec lui, je préférais vivre avec sa femme, que j'adore aussi, Alexandra Lamy.
D'accord. Ok, non, parce qu'il y avait quand même une incertitude. Vous n'arrivez pas à incarner ce personnage. Donc, soit vous êtes encore trop admiratif et ce serait presque un élan amoureux. Soit, effectivement, vous avez deux facettes. Et là, le rêve met l'accent sur une facette qui est la facette dispersée, qui est encore emprisonnée dans les larmes de sa mère. Mais le rêve vous signifierait que c'est un décor, que c'est une mise en scène, que ce n'est pas réel. Et que c'était peut-être surtout un moyen de pouvoir sur vous. Puisque vivre avec une personne que vous savez dépressive, ça peut inverser les rôles, ça peut vous parentaliser, et ça peut donc vous mettre en situation de dépendance d'elle quand vous êtes inquiet. Mais en même temps, vous la mettez en position hiérarchique au-dessus de vous, vous êtes subordonné à elle dans le rêve, et donc il y a une distance, une froideur qui s'instaure aussi. Parce que là, ce que l'on attendrait, c'est effectivement une mère qui soit douce, accueillante, et rien dans le rêve ne laisse supposer que vous avez pu avoir cet échange. Et que c'est donc ce qui mettrait encore aujourd'hui en faillite le garçon qui attendrait quelque chose de sa mère. Est-ce que vous avez l'impression que vous attendriez encore quelque chose d'elle?
Ben non, je pense que fait beaucoup de chemin par rapport à ça, étant donné qu'en plus, bon, elle a subi un drame enfin, ces dernières années, et elle s'est retrouvée toute seule après avoir rencontré quelqu'un de très bien. Puis là, elle refait sa vie, donc ça m'allège quelque part. Enfin,
Alors, excusez-moi, vous voulez dire qu'elle a vécu un échec sentimental?
ben, pas, c'est le destin, c'est. En fait, j'ai perdu mon beau-père il y a quelques années et
Ah,
elle
d'accord,
vivait
donc
un
c'est.
grand amour avec.
Ok. Donc c'est effectivement un drame dans le sens où cet homme a disparu.
Oui.
Il est décédé.
Oui.
Mais pourquoi ça vous concernerait encore aujourd'hui, vous?
Ben non, mais bon, on souhaite toujours que les gens autour aillent bien quand. Ma maman, pendant après ce décès, elle n'est pas très bien. Bon,
Mais je n'ai pas
maintenant.
compris si c'est vous qui étiez proche de lui ou si c'est votre mère.
Oh, ben les deux.
Les deux, d'accord.
Oui.
Et donc pour vous, c'était aussi un drame alors.
Ah oui.
Mais c'est drôle parce que vous n'arrivez pas à vous l'approprier dans le rêve. C'est comme si la douleur de votre mère était encore plus importante que la vôtre.
Ben moi, parce que je me sens plus fort qu'elle, alors c'est normal que. Je m'inquiète plus pour elle de ce drame-là, parce que moi je sais
Mais
plus.
il y a quand même un paradoxe, puisque si vous vous sentez plus fort, vous vous êtes quand même en position de subordination quand vous êtes devant cette figure de prof. Et ce que dit donc principalement le rêve, c'est que une partie de vous est ralentie dans sa progression, dans cette représentation de vous-même, puisque logiquement vous devriez ressembler à Jean du Jardin. Vous devriez être ce prototype masculin que vous voyez comme idéal et que vous identifiez encore à la partie qui n'arrive pas à avancer, qui est bloquée par donc le décorum, les détails, le souci du détail, des choses qui vous dispersent, quoi, parce qu'on est vraiment dans une stratégie de dispersement dans le rêve. La commande ne sera pas honorée. Et en gros, donc, je pense que vous avez déjà fait un travail dessus, mais le rêve vous dit que vous êtes encore englué un peu dans les larmes de crocodile de votre mère.
Et comment, enfin, d'un point de vue pratique, on peut.
En prenant conscience peut-être de ce que dit le rêve, c'est-à-dire que c'est un décor, c'est une mise en scène. Dans le rêve, il n'y a rien qui laisse supposer qu'il y ait de la douleur. C'est énorme, mais c'est du bois.
Mais quand vous dites que il faut que je me détache encore, que je coupe au début, vous m'avez dit qu'il fallait que je me détache encore plus, et que je vous ai dit, mais de toute façon, je ne vais plus avec elle. Vous m'avez dit que c'était pas obligatoire, on n'a pas besoin de vivre vers les gens pour...
être envahi.
Mais comment on fait pour se séparer, enfin, s'éloigner?
Justement, en prenant conscience peut-être que c'est une mise en scène qui vous est proposée dans le rêve.
D'accord, une illusion.
Une illusion à laquelle, effectivement, vous êtes encore très attaché et qui vous pompe pas mal d'énergie. Et puis, vous dites qu'il y a un cadre qui est fêlé.
Oui.
Qui cela peut-il représenter ?
Quelqu'un de la famille, vous voulez dire ?
Apparemment, quelqu'un de proche, oui.
Ça peut être mon père, parce qu'il est malade, mon père, en ce moment.
Et donc vous seriez affecté aussi par cette maladie ?
Oh, je pense, oui. Je pense que ça m'embête, quoi. C'était assez sérieux. Bon, là, ça va un peu mieux, mais il est encore hospitalisé. Mais je pense que, justement, je me dis dans le rêve, c'est une fêlure, mais ça se répare. Donc je pense que ça peut être lui, parce qu'il a eu un gros truc, mais ça se répare.
Est-ce que c'était une fêlure amoureuse? Si effectivement vous auriez pu être dépité, est-ce que ça se répare aujourd'hui, le lien avec votre père?
Peut-être, oui. Parce que le fait qu'il soit malade, on se voit plus, quoi. Je vais le voir régulièrement.
Et donc aujourd'hui, ce serait plus légitime que vous voyiez votre père qui est en mauvaise santé que votre mère, en tout cas que vous lui accordiez plus d'attention en ce moment?
Oui.
Parce que là, il prend beaucoup moins de place, si c'est lui qui est représenté, que l'élément mère dans votre rêve.
Ah oui, ça c'est sûr. Mais il n'en a pas eu beaucoup dans mon enfance, quoi. Alors, c'est...
De place ?
Oui. Enfin, il ne s'est pas imposé, quoi. Il était très absent, quoi.
En tout cas, dans les faits, peut-être que ce serait plus important de lui accorder en ce moment de l'importance... plus qu'à votre mère.
Oui.
Donc la clé serait peut-être effectivement de voir si c'était une mise en scène, si ça vous interpelle, si ça vous parle.
Oui.
Pour que vous puissiez vous connecter avec ce personnage que vous aimeriez mettre en place, qui serait identifié par Jean Dujardin. Et que vous deveniez y artiste.
Oui.
Si vous avez vu le film.
Non, mais je vois un peu le pitch. Et puis, c'est vrai que... Enfin, c'est quelque chose qui résonne, ce film. Enfin, me résonne pas mal en moi aussi. Et je pense que oui, je suis un tournant de ma vie artistique, mais bon. J'ai encore il faut que je me force encore des épaules un peu plus solides, je pense, pour assumer.
Donc peut-être l'importance du lien avec le père en ce moment. D'établir un contact pour voir si vous avez quelque chose à en tirer. Enfin, excusez-moi, pas de façon égoïste, hein, mais
oui,
un échange.